Mais je préfère donner la parole au public qui nous écoute. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez poser une question à notre intervenant, François Jast, vous levez votre petite main, je vous donnerai la parole et merci de vous présenter avant de poser la question. François, tu voulais dire quelque chose? Non?
Non, non, moi,
Non?
enfin, je peux dire d'autres choses, mais je préférerais qu'il y ait
D'accord.
des questions,
Oui,
oui.
voilà, on
Mais
va déjà.
je sais que les questions, il faut, surtout dans ces conditions, attendre un
Alors,
petit peu qu'elle, voilà.
Nicolas Roussel a posé une question. Nicolas, est-ce que c'est possible de mettre la caméra aussi pour qu'on voit le visage?
Moi, je vous vois, je
Ah
vois
oui, d'accord.
Nicolas. Ah oui.
Bonjour, Monsieur Jos, bonjour à tous. Donc, c'est une question qui va être un peu longue. Je fais partie des 40% ou du tiers qui ne regardent plus la télévision et les informations à la télévision. Et je ne suis pas fâché avec les médias, mais plutôt avec le CSA, qui est donc un organisme d'État. Le CSA donc a le pouvoir de réguler l'activité des médias. Et par contre, on peut observer des phénomènes qui ne sont pas forcément représentatifs de la population française. Par exemple, pendant les élections, on a bien des quotas à respecter. Mais tout au long de l'année, on va parler, enfin, à part maintenant avec le nouveau parti présidentiel, on nous parle la plupart du temps de la gauche ou de la droite et ça s'arrête là. Le temps de parole des autres partis est quand même énormément diminué. Pourquoi ne le fait-on qu'en temps de vote? De la même manière, quand les médias parlent des étrangers, quand on parle d'eux de manière positive, ils seront français. Par exemple, Nicolas Sarkozy, on ne dit jamais qu'il est d'origine polonaise. Pierre Moscovici, on ne dit jamais d'origine italienne ou polonaise. Zinedine Zidane, on dit qu'il est d'origine marseillaise, alors que les frères Kouachi, ben, ils sont algériens. Amédi Coulibaly, il est malien, alors qu'ils sont tous les trois nés en France. Et pour le pourcentage, pareil, des nouvelles, il y a des médias qui ont fait les essais d'avoir que des bonnes nouvelles sur leurs antennes pendant quelque temps, mais du coup, ils se sont rendus compte que la circulation diminuait. Est-ce qu'on ne pourrait pas réguler pour avoir autant de bonnes que de mauvaises nouvelles? Est-ce que, pareil, là, pour la parité, on ne pourrait pas faire quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on parle davantage de l'homme masculin et beaucoup moins de la part des féminines, alors qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Pourquoi est-ce qu'en hiver, on va nous parler de la neige pendant des heures, alors qu'il y a tous les jours 5 000 enfants qui n'ont pas accès à de l'eau potable et qui décèdent? Pourquoi est-ce que le
D'accord.
CSA ne
Pardon,
pourrait pas
Nicolas,
intervenir pour hiérarchiser toutes ces
pardon,
informations?
pour donner la parole à tout, est-ce qu'il est possible de poser une question?
Ça y est, c'était la fin. C'était juste.
Non,
Pourquoi
c'est
le
bien.
CSA ne peut-il pas réguler davantage ce qui est dit à la télévision et
D'accord.
dans les médias?
Merci. Très intéressant. Oui.
Oui.
Merci.
Alors, c'est une question intéressante et effectivement, avec beaucoup de ramifications, comme vous dites.
Je suis dans le vice somatique aussi.
Pardon?
Non, excusez-moi,
Pardon?
je coupe mon micro.
Non. Oui, alors, d'abord, le CSA. Si le CSA faisait tout de suite toutes ces régulations, on dirait qu'il censure. Hein, il faut faire très attention. Le CSA, d'abord, ce n'est pas tout à fait un organisme d'État, mais le CSA répond après. Hein, le temps des partis, je veux dire, ce qui me gêne un tout petit peu dans votre critique, c'est que elle s'appuie pas sur des choses assez précises. Hein. Vous dites, par exemple, que le temps consacré aux partis n'est peut-être pas bien, etc. Je ne sais pas, il faudrait faire une étude là-dessus. Je ne peux pas le dire, moi, et je pense que personne d'entre nous peut dire s'il y a plus de LR, ce que j'ai fait, moi, par exemple, vous voyez, sur les partis. Bon, ben, j'ai été à l'INA, j'ai mesuré le nombre d'interventions de Philippot. Je peux vous dire que c'est l'extrême droite qui est apparue le plus dans les médias avant les élections. Bon, mais ça, voilà, c'est une mesure, c'est pas intuitif. Donc ça, c'est une chose. Moi, je suis pas sûr non plus que ce que vous dites des étrangers, je sais pas si c'est vrai. Il faudrait vérifier, voyez, si c'est vrai. Alors, sur le féminin masculin, je trouve que là, vous êtes très sévère parce que précisément, le CSA, depuis quelques années, n'arrête pas de faire des études pour regarder la représentation des femmes, pour regarder la présentation des différences, etc. Donc là, je vous trouve un peu injuste, je ne défends pas le CSA, mais je le défends quand même un petit peu, parce que, par exemple, vous voyez, sur la représentation des attentats, où on a mis la vie de gens en danger, etc., le CSA a convoqué des gens dont j'étais pour analyser comment ça s'est fait et pour voir quelles recommandations on pouvait proposer aux médias par la suite pour qu'ils ne recommencent pas ce qui avait été fait en 2015. Donc, je ne suis pas aussi… Alors, sur les bonnes et mauvaises nouvelles, c'est un des points sur lequel j'insiste dans mon livre. J'avais une partie que je ne vous ai pas faite, effectivement. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge ?
Bien sûr, j'ai 38 ans.
Ah, alors vous êtes un tout petit peu au-dessus. Vous êtes donc resté jeune, puisque j'avais dit tout à l'heure que c'était 35 ans, le truc. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est ça. Voyons. Selon une étude récente menée à la BBC en 2016, 51% des Britanniques il y a un retour là. Oui, c'est parce que je m'entends par votre micro, c'est ça. Ils sont d'accord avec le fait qu'ils souhaitent que les informations fournissent également des solutions. Vous voyez, c'est-à-dire que je vous redis, 47% des 19-24 ans sont d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait qu'ils souhaitent que les informations fournissent également des solutions. Les chiffres sont encore plus élevés dans les pays en développement, 75% des Indiens, 78% des Nigériens, 80% des Kenyans. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça va un peu à l'encontre de ce que vous dites. Les jeunes, pour beaucoup, souhaitent des informations plus positives, des informations qu'on appelle aussi constructives ou qu'on appelle optimistes. Enfin bon. Donc, il y a une demande très large des Français et d'autres pays pour que l'on ne parle pas que des trucs qui vont mal, mais qu'on porte attention aussi aux solutions possibles. Et il y a d'ailleurs des médias, notamment en Angleterre, mais même en France, ça commence à exister, ça existe, hein, certaines émissions qui sont des émissions constructives. Mais je ne crois pas, d'après les chiffres que j'ai, etc., que les jeunes soient contre ça, ils sont plutôt pour.
D'accord.
Vous m'entendez ?
Oui. Oui, merci.
Merci Nicolas. Alors, bon, il y aura peut-être d'autres questions, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir ?
Alors, si vous voulez, je peux. Il y a quelqu'un ?
Oui, alors déjà, Nicolas, il faut baisser ta main pour éviter.
Ah, ouais.
Ah ouais. Et il y a Didier Ozil qui souhaite prendre la parole, avec qui est là également à l'écran. Donc,
oui. Bonjour, bonjour et merci de. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci de cette présentation. Alors, ma question est assez simple. Ah, il faut que je me présente un peu peut-être avant.
Oui.
En fait, je suis un jeune étudiant en reprise d'études. Ça se voit un peu. Je suis après avoir été réalisateur à la télé, j'ai repris des études en sociaux. Et ma thèse que je suis en train de faire porte sur le e-learning. Socrate face au e-learning, voilà. Ma question, elle est très ouverte parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de réponse, mais c'était un peu votre avis que je voulais. Et là, je ne parle vraiment que de l'image. Et il y a une sorte d'usure de l'image, c'est-à-dire qu'il y a en fait des choses que l'on voyait autrefois d'une certaine manière et on ne peut plus les voir de cette manière. Une usure d'ailleurs qui est vraie aussi dans la fiction, hein. On ne monte pas les films comme on les montait autrefois. Bon. Et cette usure, c'est un concept que je trouve assez peu mobilisé. En général, on n'en parle pas tellement de cette sorte de désaffection que l'on a pour des choses qu'on a déjà vues sous cette forme. Et ma question, elle portait un peu sur est-ce que cette usure n'est pas aussi une usure des genres ? Parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la notion de genre et ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis. Finalement, les choses s'épuisent parce que les genres qui véhiculent les informations ne sont plus reconnus comme tels ou apparaissent faux ou apparaissent désuets. Voilà. Et ça repose le problème que vous posiez qui est fiction-réalité, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que la réalité n'est pas un peu mise en scène, quoi. Voilà, c'était un peu la question que je voulais poser. Merci d'avance.
Merci.
J'aimerais juste que, si vous pouviez préciser un tout petit peu, je vois bien ce que c'est que l'usure des genres, mais l'usure de l'image, à quoi vous pensez
Alors, déjà, la question m'est apparue lorsque j'ai revu récemment un film de Jean-Pierre Melville, ouais. Qui passait à la télé, et je me suis dit, c'est très bizarre, j'avais vu quand il était sorti, j'avais trouvé ce film terriblement rythmé, et aujourd'hui, ce type de montage m'apparaît vraiment assez lent. Ça veut dire que c'est pas beau, hein, c'est très beau, mais on ne monte plus les films comme ça. Bon, à partir de là, lorsqu'on filme une manifestation, eh bien, il n'y a pas 36 000 manières de filmer une manifestation et d'en rendre compte par l'image. Et peut-être que le problème des Gilets jaunes, ça a été aussi que on ne rendait pas compte de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu. Ils ne se retrouvaient pas dans l'image qu'on donnait de ce vécu-là. Et finalement, quand on commence à dire ce que je vois, oui, c'est l'État ou c'est les grands pouvoirs qui manipulent l'image, est-ce qu'on ne dit pas tout simplement j'aimerais voir une image qui ne soit pas celle que j'ai déjà vue, qui est un peu usée et qui a une sorte de renouvellement. Et quand vous évoquiez tout à l'heure cette chaîne russe, la RT, effectivement, c'est déjà par un changement de manière de faire, des plans très longs, des plans très avec assez peu de commentaires, ou qui a changé les choses et qui, pendant un instant, a pu donner l'impression que c'était nouveau. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair.
Ouais, ouais. Alors bon, sur l'usure de l'image, maintenant que je comprends mieux, effectivement, c'est tout à fait vrai que de toute façon, le montage s'est accéléré, que ça dépend aussi de raisons techniques, hein, puisque je me rappelle quand je faisais des courts-métrages, il y avait quand même un nombre d'images sur lesquelles on ne pouvait pas descendre, hein, pour surtout si on faisait un montage qu'on retravaillait beaucoup, le film cassait, bon, c'était très compliqué. Aujourd'hui, depuis qu'on a la vidéo, on peut faire les plans qu'on veut et les raccourcir et les redoubler, et, pas aller envoyer au trucage pour faire un arrêt sur image ou des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça a complètement changé et qu'il y a des études là-dessus qui sont scientifiques sur le fait que la durée d'un plan moyen, par exemple, dans les James Bond, a été raccourcie en 30 ou 40 ans incroyablement. Hein, donc, je me rappelle avoir entendu une communication sur James Bond, c'est cette intuition que le film de Melville, c'est un peu lent, oui, je crois que vous avez raison, ça a changé. Ben alors, ce qui a changé plus radicalement, c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce que dans les années 50, quand on faisait de la télé d'abord, on faisait du cinéma, cinq colonnes à la une, quand il y avait un reportage de cinq colonnes à la une, la plupart du temps, la caméra était sur pied et on filmait des choses qui étaient la caméra sur pied, ce qui donnait l'impression d'un regard un peu surplombant, un peu divin, qui observait la réalité. Alors, ça a changé avec l'arrivée des éclairs coûtants, etc., la caméra sur l'épaule, mais ça s'est incroyable, c'est devenu, comment dire, la normalité aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le smartphone fait forcément une image qui est conçue comme subjective. Je me rappelle quand j'enseignais à Montpellier, vous êtes à Montpellier, quand j'enseignais à Montpellier, puisque j'ai été 5 ans maître de conférence à Montpellier, je leur faisais faire des films. Et parfois, alors en plus, c'était des films en Super 8 et qu'on montait sur la table Super 8. Je ne sais pas si vous voyez, ce n'était pas extrêmement facile. Il fallait avoir des doigts de fée. Donc, quand on faisait ces films, parfois, ils prenaient la caméra, ils filmaient comme ça avec les mains, avec les mains, et je leur disais, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez signifier quelque chose par le fait que la caméra bouge comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'il y a un personnage, etc. Et ils n'en avaient pas tout à fait conscience, ont travaillé là-dessus. Maintenant, c'est par défaut, tout le monde marche dans la rue, tout le monde fait des plans qu'on appelait subjectifs. Alors, effectivement, c'est un véritable changement, parce que finalement, si vous voulez, c'est plus ce regard divin dont je parlais tout à l'heure, en disant on avait une vision surplombante sur la réalité, maintenant on a forcément le monde qui tourne autour de soi. C'est ça qui est dingue, c'est que l'utilisateur est devenu le centre du monde. Alors, avant, il avait un point de vue plus divin, donc il était partout, nulle part et partout. Donc, alors maintenant, c'est devenu la sorte de marque. C'est intéressant parce que vous avez Hollywood qui luttait contre toute trace d'énonciation. Il fallait rester, comme disent les Anglais, Américains, nobody's shot, hein, c'est-à-dire un point de vue de personne. Et maintenant, au contraire, on est toujours dans un point de vue de quelqu'un. Donc, la vérité finit par s'identifier à ce point de vue personnel. Mais ce qui est une erreur aussi. Et bien sûr, parce que ce qui différencie la prise de vue gilet jaune de la prise de vue télévisuelle, c'est qu'elle totalement subjective. La télévisuelle le devient de plus en plus. Je me rappelle que pendant la crise des Gilets jaunes, il y avait des reporters qui prenaient leur smartphone et qui déambulaient dans la ville. Et donc, voilà, la vérité est que du côté subjectif. Alors, si justement ce qu'on entend plus, ce qu'on est plus prêt à comprendre et à entendre, c'est que le journalisme, c'est quelque chose qui n'est pas ce regard divin, qui n'est pas ce regard personnel, mais qui est la confrontation des regards. Et c'est par la confrontation des regards qu'on peut comprendre quelque chose. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'était très intéressant. Il y a eu des statistiques là-dessus. Les Gilets jaunes disaient « on n'a absolument pas parlé de nous, on n'a pas assez parlé de nous ». Les gens qui étaient contre disaient « on ne parle que de ça ». Et les chiffres montrent qu'on a parlé… oui, pour un cinquième ou un quart dans les journaux télévisés, etc. Donc, tout ça pour dire que le jugement des uns et des autres est aussi extrêmement subjectif. Je pense toujours, vous savez, quand vous avez un débat télévisé au deuxième tour, souvent, on sort de ce débat, on discute avec des gens, et on n'est pas d'accord sur celui qui a gagné, entre guillemets, le débat. Mais parce que, simplement, c'est ce que les psychologues appelleraient un biais de confirmation. Hein. Si on aime quelqu'un, on trouve que ce qu'il fait, eh bien… on est avec les Gilets jaunes, on trouve que la façon dont ils en rendent compte, eh bien, moi personnellement, quand je regarde un journal télévisé, il y a des moments où je dis, mais pourquoi ils montrent ce truc-là? Je ne suis pas du tout d'accord. Bah, la démocratie, c'est justement le contradictoire. C'est qu'on accepte qu'il y ait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et ce qui n'allait pas dans les discours des Gilets jaunes à l'époque, c'est qu'ils pensaient que la vérité, c'était vu de leur point de vue. Et non, ce n'est pas vu de leur point de vue. Alors maintenant, sur la première question que vous posiez aussi sur l'usure des genres, c'est vrai qu'il y a eu un moment où les genres étaient une garantie de stabilité de l'audience dans une télévision ancienne et aux États-Unis même. C'est-à-dire qu'on savait que si on avait tel type de genre, le soap opera ou un autre, on allait retrouver à peu près les mêmes spectateurs. Maintenant, c'est différent et on peut dire que la vraie mutation, c'est ce que vous avez évoqué sur le rapport au réel qui contamine effectivement toute la fiction. En ce moment, je regarde une série, comment s'appelle-t-elle déjà ? Zut. Je ne sais plus, mais dans lequel vous avez plein d'images de la réalité, des images de Sarkozy, des images de Trump, etc. Maintenant, la fiction vient appuyer, la réalité vient appuyer la fiction constamment, et bon, là, il y a une mixité qui est généralisée.
On pourrait dire une hybridation de tout cela.
Oui.
Bon. Alors, je regarde d'autres questions.
On a Jean-Luc et
Anaëlle. Oui. Alors, Jean-Luc, n'oubliez pas de vous présenter, hein, avant de prendre la parole. Donc Jean-Luc.
Oui, me voici, me voilà.
Oui. Bonjour.
Alors je suis Jean-Luc Berger, je suis maître de conférence en sciences, en sciences du langage, oui, à l'INSPE. Oui, pardon pour le lapsus. Oui, parce que je ne fais pas vraiment des sciences du langage à l'INSPE, bien sûr. Je suis plutôt dans le domaine, on va dire, de l'éducation. Bon, enfin, pas forcément aux médias. Donc, c'est pour ça que mon point de vue peut vous paraître un peu candide. Mais alors, j'ai écrit dans le chat, il me semble que la multitude des regards, je me lis, hein, soit la vérité d'un événement, ne peut pas réellement exister. Là, je me place plus d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire, est-ce que la réalité d'un événement, c'est pas quelque chose qui est par essence subjectif? Et que l'idée de pouvoir embrasser la multitude des regards possibles sur un événement est de l'ordre du fantasme. Donc dans ce cas-là, je pose la question, quel serait le rôle du journalisme par rapport justement à cette prétention de vouloir rendre compte de la réalité d'un événement?
Merci de votre question. Bon, c'est vrai que vous avez raison, c'est très difficile de rendre compte des événements. Mais comme je disais toujours à mes étudiants, bon, il faut quand même, il faut s'y essayer. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a plus de possibilités de multitude de regards. Parce que je prenais l'exemple de ce monsieur Rodriguez qui a été blessé. Il y a les caméras, effectivement, totalement subjectives de ce gilet jaune ou de la police. Mais il y a aussi maintenant partout des caméras qui observent. On l'a vu sur l'affaire Michel Zecler. Là, c'est la caméra de surveillance qui a apporté beaucoup d'informations. Donc, je pense que ça n'épuise pas la réalité, évidemment. Ça n'épuise pas la réalité. Mais je veux dire, en confrontant ces regards, par exemple, dans le cas de Michel Zecler, les images prises à l'intérieur, celles qui ont été prises par l'extérieur, etc., on peut dire qu'il y a une vraie bavure policière. On peut le construire. Ce qui est important, c'est… Alors, ce qui est compliqué, c'est ça qui est un petit peu… Enfin, qui est très inquiétant dans notre monde aujourd'hui, c'est que… Les journalistes, ils avaient du mal de toute façon à rendre compte du point de vue des gilets jaunes réellement, puisque s'ils allaient de leur côté, ils se faisaient casser la gueule. Donc ça faisait deux camps, deux regards qui s'affrontaient l'un contre l'autre. C'est évidemment pas souhaitable. C'est pour ça que je suis aussi inquiet, si vous voulez, par rapport à la haine des médias, parce que c'est quand même la confrontation des regards qui permet de dégager une vérité.
Merci. Anaël.
Bonjour, alors moi je suis étudiante à l'INSPE de Lorraine et je fais partie d'une UE mémoire avec Madame Sylvie Pierre, donc à un séminaire qui est éducation A. Donc j'avais une question, est-ce que la haine des médias ne viendrait pas aussi de l'augmentation des réseaux sociaux et de la diffusion du coup de la fausse information, parce que nombreuses pages sur Facebook, sur Twitter, vont un peu modifier les informations et même faire des faux articles qui vont complètement modifier la réalité et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas alertes face aux réseaux sociaux et qui vont croire aussi ces fausses informations diffusées publiquement.
Oui, bien sûr, vous avez totalement raison. D'ailleurs, dans mon livre, il y a toute une partie aussi sur les fake news. Bon, j'ai essayé de… Il y a d'autres choses, vous pouvez acheter le livre, il y a d'autres choses que ce que j'ai dit. Donc, vous avez complètement raison, il faut le prendre en compte. D'autant plus que j'avais envie… J'ai regardé un peu récemment des sites comme le Gorafi, par exemple. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, parfois, on ne fait plus la différence entre les informations qui ont été inventées et celles qui sont celles du Gorafi. Voyez et d'ailleurs, je vois sur Facebook parfois des amis qui se font complètement piéger, moi-même d'ailleurs parfois, en prenant pour vrai un truc qui a été dit par le Gorafi. Et c'est vrai qu'il y a un minimum de lecture de l'image en plus qu'on ne fait pas. Et encore une fois, je me suis fait avoir aussi, c'est que souvent on ne regarde pas la date des informations qu'on voit circuler. Et on croit qu'on découvre quelque chose qui a eu lieu, en fait, il y a 2 ans. Alors, je dirais que ce qui est très dangereux, il y a un usage extrêmement méchant, entre guillemets, des fausses informations. C'est celui qui consiste à utiliser des mèmes pour faire des fausses informations. Vous savez ce que c'est que les mèmes, hein ? D'accord. Les variations sur les images. Bon. Par exemple, je montre dans mon livre, je vais carrément le retrouver, les informations qu'il y a eu à l'époque, pendant les Gilets jaunes. Attendez, où est-ce que c'est ? Voilà, c'est ça. Pendant les Gilets jaunes, vous aviez cette image, voilà, qui a circulé, une image de Macron. Je peux tenter, mais je pense que vous voyez rien. Si, je sais pas si vous voyez quelque chose. Non. Cette image de Macron avec ses amis, qui est à la montagne, à la Mongie. Alors, il y a marqué, par exemple, il déjeunait hier à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, pendant que Paris brûlait. Je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Bon, ça, c'est extrêmement dangereux, comme, évidemment, parce que c'est tout de suite on se dit mais enfin c'est pas vrai, il est à la montagne, il est en train de manger et de boire du vin avec des amis pendant que Paris est à feu à sang. Malheureusement la photo elle avait 2 ans, c'est une photo qui a été publiée 2 ans avant. Donc évidemment c'est ça comment ça alimente la haine dans la mesure où on se dit ah ben oui les médias ils nous disent pas ça, hein. ça c'est merci machin de nous le dire. Et j'en cite d'autres, par exemple, la ministre Schiappa, elle dit « L'envoi des militaires sentinelles est une décision sage et raisonnable. Les Français doivent comprendre que contester la parole du chef de l'État, c'est déjà faire un pas vers le terrorisme. » Oui, c'est bien, sauf que c'est complètement faux. Elle n'a jamais dit ça, hein, et on l'a accroché, etc. Donc, effectivement, il y a, quand on pense ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la manière de s'informer des plus jeunes dont vous êtes, c'est essentiellement par le smartphone, ça circule avant toute information fiable, etc. Donc, ça ne fait qu'alimenter cette idée que les médias nous cachent les vraies choses, etc. Je suis d'accord avec vous.
Pour te rejoindre, juste parce que nous sommes la journée laïcité, hein, il y a un travail aussi intéressant à faire sur la rhétorique de certains acteurs qui n'hésitent pas à justement diffuser de fausses informations ou à manipuler l'image ou l'information en s'appuyant sur des concepts comme la théorie du grand remplacement ou le concept de panique morale, et pour justement inciter à la haine et diffuser des messages d'attaque vis-à-vis de certaines parties de la population. Hein. Et on est là bien dans l'attaque aux valeurs de la République, parce que c'est une volonté délibérée de s'attaquer à la laïcité ou au vivre ensemble. Hein. Donc il y a des sites comme Riposte Laïque, etc., hein, avec des acteurs très bien identifiés et qui ont une rhétorique d'attaque, hein, délibérée. Donc ça, c'est important de savoir décrypter ces messages. Je pense.
Tu as d'autant plus raison que ça n'est pas simplement... comment monsieur machin ou madame Y qui fait ça dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des mouvements qui se spécialisent dans ces fausses informations, etc. Donc, c'est très, très, très dangereux. Il faut absolument lutter contre.
J'aurais une question par rapport à l'éthique journalistique. Est-ce que, pour avoir une note positive, on va dire, hein, qu'est-ce qui pourrait caractériser justement la qualité d'un travail journalistique par rapport aux médias, hein, d'information, parce qu'on a beaucoup parlé d'information. Est-ce que c'est l'éthique, la déontologie, enfin, est-ce que, si tu peux répondre par rapport à cela.
Alors, c'est vrai que on peut parler aussi du Conseil de déontologie et de médiation journalistique, qui le CDJM. Donc, je l'ai dit dans le désordre, hein, c'est Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui a une page que vous pouvez trouver et qui se donne comme tâche d'être gardien, d'intervenir dans les cas de saisine d'un acte journalistique qui semble pas obéir à déontologie. Alors, bon, la déontologie, il faut savoir qu'il y a trois ou quatre grandes. Il y a la charte de Munich, hein, notamment, qui fixe des années 70. Il y a plusieurs chartes de déontologie qui listent les droits et les devoirs des journalistes. Alors, je fais pour l'instant partie de ce conseil, et effectivement, on a plein de saisines qui arrivent, qui disent. Monsieur ou Madame Machin, par exemple, une qui est publiée, Paris Match a montré celui qui a montré, dévoilé les images peu glorieuses de Griveaux il y a quelques mois, hein, où il brandissait son sexe. Est-ce que vous rappelez cette histoire qui a abouti au changement de candidat du maire de Paris? Il y a une saisine qui dit on montre la personne Piotr, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Piotr Machin, on le montre menotté par les policiers. Est-ce que c'est vraiment déontologique? Donc, discussion là-dessus. L'avis a été rendu considérant que c'était une information sur comment la police arrêtait les gens, bon, alors que normalement, les menottes, on ne doit pas les représenter parce qu'elles vont contre la présomption d'innocence. Bon, donc voilà, on peut discuter à partir des items, j'allais dire, qui règlent les droits et les devoirs du journaliste, qui ne sont pas si nombreux, et en fonction de ces items, dire là, le journaliste n'a pas été déontologique ou déontologue, là il l'a été. C'est envisageable, mais je dois dire que c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué parce que il y a des choses qui s'opposent, enfin. Moi, je sais que, si vous voulez, par exemple, c'est un cas éthique alors qui se pose sans arrêt. Vous prenez l'exemple du petit Elan, petit garçon syrien qui a été retrouvé sur une plage grecque, je crois, ou turque, rejeté par la marée. Hein? Alors, moi, c'est une image qui me choque, qui m'a choqué. Et non seulement elle me choque, mais elle a surtout choqué ses parents, qui ont trouvé ça insupportable. Bon, les journalistes m'opposeraient, oui, mais c'est une information, il faut le montrer, c'est une information. Alors, on peut aller plus loin, après on dit, d'accord, admettons que ce soit une information, tous les journalistes n'ont pas du tout fait la même chose, certains ont refusé de la montrer, certains l'ont montré de loin, certains l'ont montré de près, certains l'ont montré de près, mais en floutant le visage. Donc, on peut quand même, je pense, justement, discuter entre le problème de dignité humaine que ça pose et le problème d'information que ça pose aussi, en essayant de trouver quelle est la bonne mesure entre les deux. Et donc, normalement, le journaliste doit se poser cette question sans arrêt. Hein, mais... C'est là où je pense qu'il peut se poser ces questions sans arrêt, c'est que par exemple sur les vaccins aussi, il y a quelques temps, est-ce qu'on doit montrer des tas de gens qui parlent de la crainte des vaccins, ou est-ce qu'on doit considérer que ça a une mauvaise influence sur le public? C'est un problème qui se pose, à mon avis, chaque minute à un journaliste.
Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, j'en aurais peut-être une. Peut-être ta conception de l'éducation aujourd'hui, puisque nous intervenons en éducation aux médias et à l'information, assez peu et trop peu de mon point de vue et certainement du point de vue de mes collègues. Et donc, j'aimerais avoir ta réflexion, ton regard par rapport à ce que devrait être une éducation aux médias et l'information aujourd'hui.
Et moi, oui, voilà, je voulais ajouter pour rebondir sur l'éducation à l'image, notamment, puisque vous travaillez dessus depuis beaucoup plus longtemps que, que nous tous, peut-être. Et du coup, quelles évolutions, quels nouveaux enjeux pour vous, ça peut recouvrir. Et notamment, la question de ce biais de présomption, de manipulation de l'image. Où, moi, des fois, j'ai cette impression qu'à force de mettre l'accent sur... sur la manipulation, le fait que les images sont truquées, l'infox, j'aborde dans mes cours les questions d'éducation à l'image et il y a un biais dans la forme, enfin je trouve de plus en plus dans la manière dont les enseignants abordent les questions d'éducation à l'image. J'ai l'impression que tout n'est plus qu'axé sur justement cette problématique de la manipulation ou de la vérité qu'on ne peut plus du coup comment donc du coup on fait pour aborder ce biais et comment ce biais on évite qu'il soit ensuite évidemment transposé en contexte scolaire, dans les apprentissages, dans l'enseignement, enfin auprès des élèves, en fait. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme... C'est une question qui me turlupine.
Je comprends, parce que moi aussi, si vous regardez enfin, les livres que j'ai écrits, à chaque fois je dis que mes livres, c'est pour moi des traités d'éducation civique. Donc ça fait très longtemps que j'ai cette préoccupation. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a apprendre des choses très générales, comme qu'est-ce que c'est qu'un mensonge, qu'est-ce que c'est qu'une erreur, pour bien faire la différence. De même que monter, c'est peut-être pas forcément manipuler. Donc, vous voyez, là, moi, ce que j'ai observé, je pense que l'éducation à l'image, il y en avait un petit peu aujourd'hui dans mon intervention. C'est ce que j'ai en tête toujours. Comprendre, quand je vois que que des gilets jaunes disent là on nous ment parce qu'on nous dit il y a 4 morts un jour et puis 2 morts un autre jour, bien comprendre que l'erreur, pour moi il y a 3 choses, l'erreur, la rumeur l'assertion vraie, si on peut dire, etc. Ça, il faut déjà commencer par bien comprendre ce que c'est, bien comprendre que la loi sur les fake news, la première bouture de la loi sur les fake news qui a été discutée et finalement on a rejeté cette formulation. Elle parlait des images, mais sans mettre la question de l'intention. Il y a des images qui sont intentionnellement fausses, et il y a des images qui sont fausses parce qu'on a été trop vite, parce qu'on n'a pas vérifié, parce qu'il y a eu un trucage dans l'image, effectivement. Mais ça, il faut quand même déjà bien faire ces nuances. La deuxième chose, moi, que j'ai toujours dit à mes étudiants, parce que ce que je faisais souvent, c'était comparer 3 journaux télévisés, 2 du même jour, la même heure, avec 3 journaux télévisés aussi de 13h, 20h. Et je vais vous dire par exemple un des résultats, mais c'est tout de suite évident, c'est que les étudiants ont tous considèrent a priori que TF1 est une chaîne pourrie qui dit que des conneries, etc. Si vous comparez les journaux télévisés, vous apercevez que bien sûr c'est vrai du 13h de Jean-Pierre Pernaut, mais que le 20h de TF1 est parfois beaucoup plus sérieux même que celui de France 2. Il faut comparer les deux. Mais ce que je leur disais surtout, c'est un peu ce que j'ai dit en conclusion, c'est que on élimine très vite cette chose qu'on sait, c'est que la caméra, le montage et tout ne rendront jamais compte de la réalité elle-même. Parce que la réalité, il n'y a pas mieux que la réalité pour être réelle. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la représentation, on est dans la médiation. Donc, il est totalement illusoire de penser qu'il y a une solution qui montrerait la réalité. La réalité, voilà. Ça, la phrase gilet jaune tout à l'heure, il faut dire la vérité. Y a forcément un biais. Alors, on peut faire des exercices du genre, voilà une information que nous donne la dépêche de l'AFP, hein, et comment je la fais passer maintenant par l'audiovisuel. Peut-être d'abord par l'audio. C'est sûr que, à mon avis, la radio va poser moins de problèmes que la télévision. Hein. Bon, comment on fait pour que l'étudiant ait bien conscience que de toute façon, je veux dire, il va être obligé de prendre un parti lui aussi. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas celui de TF1, de France 2 ou de je sais pas quoi, mais il sera aussi obligé de prendre un parti. Et c'est illusoire de il faut démonter, si vous voulez, l'idée que il y a manipulation, parce que bien sûr, il y a forcément, c'est forcément de la même manipulation, mais il y a celle qu'on essaye de faire avec une certaine idée de l'honnêteté, et puis celle qui est volontairement mensongère. Parce que est-ce que l'alternative, c'est se taire, vous voyez ? Voilà. Alors après, il y a aussi, il faut aussi faire passer, parce que Nicolas disait tout à l'heure, on va montrer plus telle chose plutôt que telle autre, ou telle personne, etc. C'est vrai qu'il y a une dimension éditoriale qu'on ne peut pas non plus balayer d'un coup dans une société où on se réclame d'une liberté d'expression. C'est-à-dire que, vous voyez, les informations, on peut ne pas être d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Valeurs Actuelles, mais est-ce qu'on doit dire que ça ne doit pas exister ? C'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, vous penchez, il n'y a plus de liberté d'expression. La liberté d'expression, cela dit, j'insiste là-dessus, puisque c'est cette journée de laïcité, etc. Hein, et il faut insister là-dessus. La liberté d'expression, c'est pour la Cour européenne des droits de l'homme, oui, le droit d'offusquer, d'offenser, etc. En revanche, la limite, c'est le racisme, c'est tout ce qui dévalue l'individu. Hein. Mais sinon, on a le droit, on confond aujourd'hui complètement ces deux choses. C'est-à-dire qu'on a le droit d'offenser, on a le droit de se moquer, mais on ne doit pas condamner des gens pour leur appartenance à telle ou telle catégorie, religion, etc.
Mais c'est compliqué quand on est quand on est face à des très jeunes. Je pense, ça me fait penser évidemment à l'assassinat là, de cet enseignant. Ouais. Et donc on est confronté aussi à des élèves qui sont enfermés dans des croyances religieuses. Et donc, comment on fait finalement cette liberté d'expression et ce droit d'offusquer, comment fait-on pour prendre en compte aussi finalement leur propre regard, ou en tout cas conviction, croyance, qui fait que ça fait barrage aussi à un moment donné à ce type de discours, hein.
Je pense que c'est très difficile, et là encore, je n'aurais pas de recette. Moi, je n'aimerais pas être à cette place, parce que je trouve que c'est très difficile. Ce que je pense, quand même, en ayant un tout petit peu réfléchi, c'est que peut-être il faudrait partir de beaucoup plus loin sur… tout à l'heure, par exemple, regardez, je parlais du carnaval. Bon, le carnaval, c'est un point très intéressant, si on part de là. Parce que le carnaval, c'est le droit de se moquer des puissants, de se moquer de l'autre, hein, et de prendre un masque pour se foutre de lui, hein, de prendre un masque. Ce qu'aujourd'hui, comme vous avez vu pour une pièce de théâtre qui devait passer à la Sorbonne, mettre un masque noir, ça a été condamné par beaucoup de gens. Bon, donc mettre un masque, ça remonte au carnaval, hein, c'est bien plus que le 16e, évidemment. Les caricatures, je pense que montrer les caricatures qu'il y a eu des rois, des politiques, de daumiers, et puis après les caricatures religieuses qu'il y a eu aussi en France, et sur toutes les religions, peut-être ça amène à moins de brutalité et à moins centrer sur un seul problème. C'est peut-être plus convaincant. Peut-être, ouais.
D'accord, je vois que dans la conversation, il y a quelques propositions, donc n'hésitez pas à regarder aussi les échanges. L'heure passe, donc il est 15h55. Nous allons peut-être nous quitter, sauf s'il y a encore une dernière question. Je n'en vois pas. Nous pourrions échanger encore longtemps tant les travaux. Alors, il y a Nicolas qui pose une question. Je donne la parole.
Une dernière question. Que pensez-vous de la place de l'EMI dans les programmes de l'éducation nationale?
Merci.
Vaste question.
Dans les programmes... Je ne sais pas.
Nicolas, vous nous avez dit que vous êtes...
Je suis enseignant d'anglais dans le lycée dans l'est de la France et vacataire aussi à l'Université de Lorraine de droit.
D'accord, très bien. Merci.
Non, je pense à rien.
D'accord. Par exemple, Socrate trouvait que la démocratie était illégitime parce que le peuple n'était pas assez avisé pour faire un choix d'une personne qui gouvernerait. Et cette personne n'est même pas assez compétente parce qu'elle n'est spécialiste que dans un domaine. Alors là, on a un panel de... Si vous voulez, dans l'éducation, on n'a pas de sciences politiques ou de sciences sociales ou d'éducation aux médias à proposer aux jeunes. Est-ce que c'est un problème pour la démocratie?
Ah je pense absolument. Moi, je milite pour une éducation aux médias dans les lycées, les collèges depuis très longtemps. Mais c'est compliqué parce que, en fait, ce qu'il faut, il y a un problème d'abord. C'est un bon lieu pour le dire, mais enfin, il y a un problème de formation des maîtres. Hein. Parce que, si vous voulez, moi, je me rappelle, j'ai fait des cours, par exemple, sur la catastrophe, le tsunami qu'il y avait eu en Thaïlande il y a pas mal d'années. Je sais pas, deux, trois jours après, j'ai fait un cours en amphi pour parler de comment ça avait été traité par les médias. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que en plus, je veux dire, il faut avoir les images, il faut. Enfin, c'est. Mais je pense que c'est. Il faut réagir. J'ai fait beaucoup de conférences pour les enseignants. Et une des difficultés que j'ai rencontrées, les deux difficultés que j'ai rencontrées, c'est que la plupart des enseignants devant lesquels j'étais, ils me disaient, moi, monsieur, de toute façon, je regarde pas la télé. Bon, vous savez qu'il y a à peu près 3% de gens en France qui ne regardent pas la télé. Je les ai tous eus. J'avais que ça. Hein. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on étudie la télé, les profs pensent toujours que ce qu'il faut, c'est étudier l'information. Alors que justement, comme on l'a dit, l'information, les jeunes la regardent de moins en moins à la télé. Donc, ça ne sert à rien. En revanche, vous avez beaucoup de jeunes qui regardent la télé-réalité, sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire aussi. Et en général, les profs disent « Ah ben non, mais ça, non, il faut quand même… Je ne vais pas tomber si bas que ça à étudier la télé-réalité. » D'abord, ils ne l'ont jamais regardé. Bon, moi, j'ai regardé des heures de télé-réalité et j'ai écrit 3 bouquins dessus. Mais je veux dire, c'est un sujet extrêmement intéressant et qui vous pouvez avoir un dialogue. Bon, aujourd'hui, je prendrai les séries. J'ai écrit aussi beaucoup sur les séries. Je veux dire, prendre une série que tout le monde regarde plus ou moins en ce moment et réfléchir sur, avec toutes les possibilités sur le montage pour M. Ozil, sur la représentation des femmes, des prisonniers. La semaine prochaine, je vais être interrogé pour un film sur comment on traite la prison dans les séries, par exemple. Bon, c'est un sujet intéressant. Tout ça, voilà, je pense que c'est ça la difficulté, c'est que c'est pas une matière en plus, c'est presque une matière à part entière et si vous essayez de convaincre les parents d'élèves en plus que regarder la télé en classe c'est acceptable, je pense qu'il y en a des tas qui vont râler, enfin vous le savez mieux que moi sans doute. Bon, c'est compliqué.
Pourtant, quand on regarde les chiffres médiamétrie, les enfants regardent plusieurs heures par jour la télévision. Donc, ça fait effectivement absolument partie de l'éducation. Hein.
Bien sûr. Voilà. Ça, oui, vraiment... oui. Et tu as tout à fait raison, bien sûr. Je veux dire, on fait comme si… On dit, les jeunes, moi, mes enfants… Je me rappelle avoir discuté avec un sénateur de spécialiste des médias. Il me disait, moi, ma fille, elle ne regarde pas la télé. sa fille, il est sénateur, il est à Paris, etc. Est-ce que c'est le comportement du village où je me trouve, moi, actuellement? Je crois pas, c'est pas le même. Donc, il y a, sur la télé, il y a vraiment tellement de représentations absurdes que c'est compliqué. C'est compliqué. Et vous savez, d'ailleurs, quand... moi, j'ai été de ceux qui ont quand même lancé l'enseignement du cinéma en France. Et à l'époque, vous aviez les profs de lettres qui vous disaient « Ah ouais, toi, de toute façon, tu regardes des films sans arrêt. Hein, c'est ça ton boulot. Ils se foutaient de nous. » Après... En 82, moi, j'ai commencé à apporter la télé. Et ça, c'est les gens qui travaillent sur le cinéma qui m'ont dit « Ah ouais, mais toi, tu regardes la télé tout le temps. » Donc, on a toujours, vous voyez, il y a une sorte de hiérarchie des disciplines qui fait que c'est très dur de parler de la télé parce que ça reste encore un objet un peu omis.
Voilà, donc on va rester sur une pointe d'optimisme. L'éducation oui. média et l'information, l'éducation à l'image sont vraiment à intégrer dans le cursus d'un élève futur citoyen. Hein, ça, c'est vraiment important. Et qu'on puisse lui donner un regard aussi confiant par rapport au monde dans lequel il est et dans lequel il va évoluer. Et ça me semble être primordial, hein, de ne pas être dans la défiance permanente, parce que c'est un vrai risque pour la démocratie. Mais d'être plutôt, grâce aux enseignants qui peuvent les accompagner, d'être dans une posture de, justement, capable de discernement, hein, même si ça n'est pas simple, hein, comme François l'a dit, de pouvoir justement être capable progressivement, hein, de pouvoir appréhender le monde qui l'entoure et la réalité du monde avec quand même discernement et puis recul, hein, parce que... On voit bien que le monde se complexifie et que c'est un enjeu pour notre société, hein, parce que les médias font partie de notre société. Voilà, donc on va peut-être s'arrêter là, parce que... En tout cas, merci beaucoup, François, de nous avoir consacré cet après-midi de ton temps, puis de partager... ta réflexion, tes travaux qui nous donnent envie de lire. Hein, donc voilà, nous avons tes ouvrages à la bibliothèque des sites de l'INSPE. Et donc j'encourage les étudiants et les participants à cet après-midi à poursuivre par la lecture. Hein, et puis peut-être porter un autre regard sur la télévision et les médias en général. Tu veux peut-être dire quelque chose, François,
pour... Juste vous remercier aussi. J'étais très heureux de vous voir, même si c'est de loin. Bon, je regrette. C'est vrai que c'est quand même terrible ce qui nous arrive là. Je me réjouissais de venir en chair et en os et de vous rencontrer. Bon, on fait comme ça. Mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions.